Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
Chères auditrices et auditeurs de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui, dans Musique traditionnelle, eh bien, je suis revenue à nouveau chez mon ami Raphaël Maillet. Avec ses guitares, ses chapeaux et puis ses histoires. Et à Montmartre, hein, bonjour Raphaël.
Bonjour Mathilde.
Alors, j'aime bien commencer l'émission par un morceau.
Allez, c'est
et
parti.
Comme c'est vous le musicien, ben je vous propose de composer ce qui vous, bon, vous semble. Que c'était plutôt du tzigane.
Alors justement, ça va nous amener vers des discussions fantastiquement intéressantes.
Ah mais je n'en doute pas.
Figurez-vous, chère Mathilde,
oui,
que
chère
ce
Raphaël.
Morceau, je l'ai appris d'un violoniste fameux qui s'appelle Ion Dragoi, et je pensais que c'était de la musique roumaine,
bon.
Quand je l'ai appris. Jusqu'au jour où je le joue à un Moldave, qui me dit non, ce n'est pas de la musique roumaine, c'est de la musique moldave.
Tiens,
je dis, ah bon ? Mmh. Ben zut, alors je pensais que c'était roumain. Et il me dit, et encore, il y a deux Moldavies. Il y a la Moldavie géographique et la Moldavie politique.
Oui.
Et c'est là où nous rebondissons sur ce que nous disions la dernière fois. C'est-à-dire que on peut tout à fait aller chercher la caricature des choses, mais la réalité est d'une complexité folle. Donc, ceux qui se qualifient de puristes vont être capables de déterminer une musique d'où elle vient exactement. Et quand on se rend compte des déboires, par exemple, historiques qu'a connu la Moldavie, on se dit, mais oui, évidemment que si j'étais moldave, ça ne me plairait pas qu'on me dise que cette musique est roumaine. Évidemment. Tout comme l'histoire de la Hongrie aussi est très compliquée.
Oui, on a besoin de s'identifier à quelque chose.
Voilà, donc je vais dire que c'est
ça,
de la musique roumaine,
moi.
Et on va dire non, c'est de la musique hongroise. Par exemple, les danses roumaines de Bartok, qui sont très célèbres dans le milieu classique, sont qualifiées de danses roumaines alors qu'elles sont hongroises. Mais c'est parce que ça a été influencé par une zone, ex-zone de la Hongrie, qui a été annexée par la Roumanie. Donc on devient très, très, très précis sur toutes ces notions historico-géographiques, plus on s'intéresse aux musiques. Et c'est ça qui est génial, c'est que les musiques sont des vecteurs de relations humaines qui dépassent les notions géographiques et historiques. Et là, c'est vraiment passionnant.
Et c'est des vecteurs aussi parce que ça voyage. La musique, elle a aucune frontière, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un musicien l'apprend, la transforme, et encore plus maintenant, hein, puisqu'il y a Internet, des CD, etc. Et du coup, effectivement, il peut y avoir des styles, comme je disais, tiens, j'ai l'impression que c'est tzigane, donc quand même plutôt musique de l'Est, etc. Mais en même temps... ça a tellement voyagé. Est-ce qu'on peut retrouver exactement d'où ça vient ?
Voilà. Il y a vraiment des spécialistes, il y a vraiment des gens qui donnent leur vie pour ça. Je tiens juste à préciser que, pas seulement un style, mais juste une mélodie. Si vous connaissez la mélodie de Frère Jacques, ça ne vous viendrait jamais à l'idée de la déclarer quand vous passez la douane.
Non, c'est vrai.
Et pourtant, vous allez pouvoir la transmettre, même si vous êtes au fin fond de l'Amazonie.
Et elle est utilisée pour plein, plein d'autres...
C'est un exemple. Et donc, une fois, justement, on raccroche les wagons avec la première émission, lorsque j'étais à Argentine, un des moments qui m'a vraiment marqué, et évidemment qu'il est C'est un souvenir, donc il est enjolivé, bien
il
évidemment.
Est rose avec des
il
fleurs.
Il est rose avec des fleurs.
Voilà.
Mais un des souvenirs que j'ai vraiment, c'est de n'avoir plus de corde de mi. Ma dernière corde de mi avait cassé. Donc la corde de mi, c'est la plus aiguë, là, c'est celle-là.
Elle est très fine.
Voilà.
Et elle casse très facilement.
Voilà.
Voilà.
Donc cette corde avait cassé, je n'en avais plus. Réflexe, je vais demander, je vois un violoniste, et je vais lui demander s'il peut me vendre une corde de mi. Donc bien évidemment, qu'entre violonistes, on s'entraide. Entre musiciens d'ailleurs, il n'y a pas... Et donc je viens le voir, et je l'entends jouer une musique pareille que jamais je n'avais entendue. Et je m'approche de lui, je lui dis « Bonjour, excuse-moi, est-ce que tu pourrais me dépanner d'une corde de mi, s'il te plaît ?»« Oui, bien sûr. » Et dis-moi, quelle musique joues-tu? Et là, il me répond, je joue de la musique suédoise. Alors j'ai dit, comment?
Il y a de la musique en Suède?
Il y a de la musique en Suède. Alors déjà, je ne savais pas où était la Suède par rapport aux autres pays. Par rapport à la Norvège.
C'était là-haut.
C'était là-haut. Donc déjà, si un Suédois m'écoute, il me dit, mais oh là là, mais... Comment c'est possible? Si un Norvégien m'écoute, il fait « Oh là là, mais comment c'est possible ?» Tout comme si un Moldave écoutait tout à l'heure, il disait « Oh là là, mais comment c'est possible de jouer cette musique comme ça ?»
Mm-hmm.
Ou tout comme un Roumain me dirait « Mais qu'est-ce qu'il y connaît à l'histoire de la Roumanie, celui-là »
Voilà.
Ou tout comme quelqu'un dirait « Quoi? Elle a qualifié ça de musique tzigane, mais comment ose-t-elle? Les tziganes, c'est un peuple... » Après, on part dans cette histoire de la légitimité dont nous causions. Donc c'est très complexe. Donc ce violoniste me dit « Oui, je joue de la musique suédoise. Je tombe des nues. Ah bon ? Il existe de la musique suédoise. »
Encore une musique que je ne connais pas.
Enfin, là j'étais tout jeune, donc je ne savais même pas que tout ça pouvait exister. Et il me dit « Oui, et en plus de ça, je joue de la musique suédoise d'une certaine région. » Je fais « Ah bon ?» Parce qu'en plus, il y a différentes régions en Suède et elles ont des styles différents. « Oh que oui !» Il me dit « Oh que oui !» Mais en plus de ça... Je suis spécialiste du répertoire entre les années 30 et les années 40 parce que j'aime bien le style de cette région. Alors là, mais je ne savais plus quoi penser. J'étais là, alors déjà j'apprends que le pays a une musique, en plus j'apprends que c'est différent en fonction des régions et après j'apprends que c'est différent en fonction des époques.
Mm-hmm.
Donc en fait, qui peut prétendre jouer d'une musique?
C'est ça, c'est vrai. Quand on rencontre des spécialistes, on se dit... Mais en fait, je dirais que plus on en apprend, et plus on se rend compte qu'on est ignorant. Enfin, je ne suis pas la première à dire ça, mais c'est vrai que dès qu'on commence à creuser, et en même temps, c'est plutôt positif, parce qu'il y a du pain sur la planche.
Tout à fait.
Il y a...
Mais c'est là où, au bout d'un moment, il faut un peu faire un choix. Parce qu'on n'a qu'une vie, et on ne peut pas... On ne peut pas passer... Quand une personne est capable de passer sa vie... sur un répertoire d'une région, d'une époque en particulier, comment est-ce que n'importe qui pourrait prétendre passer sa vie à jouer plusieurs styles en même temps? C'est impossible.
Oui, alors moi je dirais que ma petite théorie, c'est que je pense qu'il y a des gens qui sont chercheurs et qui ont besoin d'être très très précis, très très méthodiques et qui vont aller rechercher le moindre petit recoin et à la loupe. Et c'est très bien. Et il y a des gens qui sont plutôt, loin d'être superficiels, plutôt généralistes. Pour moi, je me situe clairement dans les généralistes, parce que voilà, être méthodique et très, très précis sur un point, ça ne m'intéresse pas. Mais je suis très contente qu'il y ait des gens qui le fassent.
Tout à fait, heureusement.
Parce que je m'en nourris.
Oui,
parce
oui.
que je m'en nourris. Et par contre, je suis plutôt... dans le global et la transmission. Voilà, c'est-à-dire, moi je suis plutôt dans celle qui fait le lien, comme je fais à la radio, pour nos chers auditeurs, à dire, voilà, regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Par contre, effectivement, je ne peux pas me dire spécialiste de quoi que ce soit.
Voilà.
Donc c'est ce que vous avez fait, vous, en vous intéressant à plein de styles. Est-ce que, du coup, avez-vous appris un morceau de musique suédoise que vous pourriez nous jouer?
Oui, tout à fait.
J'espère que notre invité, qui a déjà parlé au micro de Radio Présence, Aurélie Gier, va nous écouter, parce
oh
que...
Là là.
Oui, voilà, il y a du niveau, je sais.
De toute manière, je m'en fiche, je n'ai aucune légitimité.
Voilà, mais je pense qu'elle sera ravie d'entendre du suédois et de voir que ça se joue.
Ma réponse à tous ces questionnements a été celle d'accepter que finalement, quand un morceau me plaît, quand je rencontre quelqu'un qui me plaît et qui m'apprend un beau morceau que j'aime, ben en fait, je vais essayer de le jouer du mieux que je peux. C'est tout ce que je peux faire.
Et ben voilà. Je fais le public impressionné. Alors là, c'était une polska, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Alors, de quelle région?
Hans Brumme, polska, je crois.
Oh,
attends,
alors,
je vais dire des bêtises, je vais encore me faire taper sur les doigts.
On demandera à Aurélie, hein, si c'est...
Je crois que c'est ça.
Et moi, je ne m'engage pas à prononcer. Et alors, c'est vrai que comme vous avez, par exemple, là, pour les Polska, Aurélie nous avait clairement dit qu'il y avait, mais je ne sais pas combien de dizaines ou peut-être de centaines de sortes de Polska en fonction de là où ça vient, de... Voilà, c'est quand même très très riche comme répertoire. Et puis en plus, si on s'étend sur toute la partie de la Suède, on peut se retrouver à danser des journées et des journées de polska.
Exactement.
Sans jamais danser la même.
Alors je crois que le titre exact, c'est Tönnlöds polska, un truc comme ça.
D'accord.
Polska de Tönnlöds, il me semble.
Très bien.
Et d'ailleurs, j'ai un très très bon disque sur toutes les polska. Enfin, ils ont sélectionné vraiment des violoneux de chaque région pour essayer d'établir. Et Aurélie a participé à cela, si je ne dis pas de bêtises.
Ah, mais Aurélie est très... Elle sait beaucoup. Je pense qu'elle aussi, plus...
Ça s'appelle Polska, je crois.
Plus elle a cherché...
Faut que je le retrouve. Mais voilà, donc parmi tous mes disques. Quoi qu'il en soit... Où est-il? Non, les violons du Césalier.
Ah, oh.
Quoi qu'il en soit, c'est normal... En France, qui est le pays qu'on maîtrise normalement le mieux quand on est français, mm-hmm. on est conscient qu'il y a déjà différents accents en fonction des régions. On est conscient de la différence qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui boit un pastis sur la Côte d'Azur et quelqu'un qui boit
du
chouchen en Bretagne.
On voit
à quel point la différence peut être grande. On voit des différences de luminosité. Les peintres ne vont pas aux mêmes endroits en fonction de la lumière. On voit des différences de végétation. On voit toutes ces différences-là, des différences de langue, évidemment.
Des différences de culture aussi, hein, entre l'Occitanie, où est diffusée cette émission, et puis le nord de la France. C'est ça qui fait la richesse, je trouve. Moi, je trouve que c'est ça qui fait la richesse du pays aussi.
Voilà.
De pouvoir parler, ne pas entendre les mêmes accents, ne pas avoir les mêmes expressions, ne pas avoir la même musique. Je veux dire, en France, on est déjà très 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 riche, hein, puisqu'il y a la musique occitane, la musique provençale, la musique béarnaise, la musique basque, la musique... du Poitou, la musique bretonne, la musique alsacienne, enfin,
voilà,
et j'en passe. Hein,
Alors pourquoi ça ne serait pas la même chose dans tous les pays?
Et ça l'est, effectivement.
Voilà. Donc, évidemment que quand nous, on va dire « je joue de la musique irlandaise », mais n'importe quel puriste arriverait et dirait « tu joues de la musique irlandaise, mais de quel comté ?» De quelle région ? Lorsque j'étais en Irlande, des fois je jouais des morceaux, ils me disaient « non, on joue pas ça là ». D'accord. Donc, la légitimité, qui peut prétendre faire quoi, qu'est-ce, c'est des questions très compliquées. Donc, on peut avoir différents guides. On peut avoir le guide d'essayer d'être puriste, auquel cas il faut se focaliser sur un style de musique en particulier, et encore se donner une fourchette de période et de région. Mmh. Ou alors...
jouer ce qui nous plaît.
On peut jouer ce qui nous plaît et transmettre ce qui nous plaît aussi, puisque c'est ça le but. Et les deux ne sont pas incompatibles. Puisqu'on peut aussi créer, on peut aussi avoir un répertoire de prédilection en se disant ce répertoire-là, j'ai vraiment envie d'être puriste, et puis les autres répertoires, je vais aller grignoter.
Picorer, papillonner.
Comme à l'apéro, comme des tapas.
Alors, j'avais une question, parce que là, on a parlé de répertoire, de style, etc. Est-ce que vous composez ?
Oui. Oui, je compose. Et la musique à danser est une grande source d'inspiration.
Alors, est-ce que vous avez une composition à nous faire partager?
Oh, ça vaudrait une bourrée trois temps que j'ai composée, tiens.
Allez, une bourrée trois temps.
Alors attention, les puristes. Hein.
Moi, je suis pas puriste.
Ah, ouais, tu l'es un peu plus que moi en termes de bourrée.
Moi, ça m'a beaucoup plu. Je vous propose de nous faire un petit retour par téléphone ou par email pour parler donc de cette émission et nous dire si vous avez aimé et si vous voulez qu'on continue. Du coup, avec Raphaël, bravo pour votre composition.
Merci.
On a encore quelques minutes pour parler de votre groupe qui vous a fait, enfin avec lequel vous avez le plus tourné.
Oui.
Et dont j'avais envie de parler parce que, chers auditeurs et auditrices, si vous allez sur YouTube et que vous cherchez Accords et âmes, Super Mario, eh bien vous trouverez Accords et âmes en train de jouer Super Mario et Star Wars. Et moi j'adore ce passage-là. Voilà, voilà. Donc du coup vous avez ce groupe-là qui est plutôt traditionnel, plutôt un peu de tout, plutôt... comment c'est ?
Pareil, dès qu'on commence à mettre des étiquettes,
Ça s'évade.
Ça sent le roussi.
Bon, d'accord.
Mais disons qu'on est qualifié de néo-traditionnel, dans le sens où on s'inspire des rythmiques et de l'esthétique traditionnelle, mais qu'on n'hésite pas à y mettre des esthétiques plus contemporaines ou celles qui nous plaisent ou qu'on a envie de composer, à savoir des musiques de films, des musiques de jeux vidéo ou du rock ou des compositions personnelles. Mais en même temps, ça n'est pas très nouveau et d'autres intervenants par le passé ont déjà beaucoup parlé de la porosité entre la sauvegarde de la tradition et la création de répertoires. Et encore une fois, les deux ne sont pas du tout opposés.
Je pense même que l'un est de l'autre. Hein.
Voilà.
Ce néo-traditionalisme est peut-être plus facile à écouter que de la musique traditionnelle pure, qui parfois peut être un peu dure pour des oreilles qui ne sont pas encore habituées. Et que ça permet au moins d'avoir une attraction et de montrer que, déjà par l'idée du bal, c'est-à-dire qu'Accords et âmes, vous pouvez faire de la scène. Moi, je vous ai vu sur scène, mais voilà, dans un spectacle. Et vous savez très bien vous adapter au bal, c'est-à-dire faire en sorte que ça soit dansé. Et grâce à ça, ça attire déjà pas mal de monde.
Oui.
En fait, ça donne envie au moins de se dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, il y a un groupe sur scène, il y a des gens qui dansent en bas. Waouh !
Et ça permet de faire se rencontrer aussi des milieux qui n'ont peut-être pas l'habitude de se rencontrer de manière officielle. Et lorsqu'on peut jouer de la musique traditionnelle vraiment à danser aux côtés d'un orchestre symphonique, ou quand on peut faire un spectacle sur Schubert et faire une variation de pizzica italienne, c'est quand même une sensation incroyable.
Alors les musiciens d'Accordéam, présentez-les-moi. Il y a vous au violon,
oui,
et au chant.
Voilà.
Et à la princesse.
Et à la
si
princesse.
Vous regardez Super Mario sur YouTube, vous allez comprendre.
Voilà, donc nous avons à la batterie et aux percussions Franck Chenal, à la contrebasse Nathanaël Malnoury, au hautbois à la guitare Jonathan Malnoury, et à l'accordéon. Donc là, nous en avons plusieurs
accordéonistes. Ah oui, d'accord.
Voilà, en fonction du répertoire, en fonction des disponibilités aussi. Donc nous avons Alexis Lambert pour le bal, et nous avons Julien Gonzalez pour les spectacles autour de la truite de Schubert, et nous avons Michael Bideau qui est le premier à avoir été là et à nous avoir donné cette impulsion lorsque nous étions en Argentine de commencer à se préoccuper véritablement du rapport à la danse.
Je me rappelle de Michael. Je crois que la première fois que je l'ai vu, il avait 13 ans. Il jouait de l'accordéon seul sur un parquet argentin. Donc, argentin, hein, c'est un gros festival avec 10-12 barnums, des espèces de gros parquets. Et là, il y avait un tout petit jeune qui jouait de l'accordéon fort bien et qui jouait une scottish et qui m'avait énormément marqué. Parce que c'est vrai que... pour moi, la musique traditionnelle a été longtemps associée à du vieux. Je me suis réconciliée avec cette musique entre 17 et 19 ans. Et du coup, je trouvais ça super. Je me suis dit, c'est génial qu'un petit jeune de 13 ans... Et il a fait longtemps partie d'Accordéam. En tout cas, comme vous dites, vous avez un spectacle sur la truite de Schubert.
Oui, ça et s'appelle « La truite ».
La truite, d'accord. Voilà. Et on peut vous trouver sur les
oui.
réseaux sociaux. D'accord,
oui.
La truite, Accordéam. Et vous avez une partie bal, ce
oui.
qui vous fait tourner, en fait.
Voilà, ce rapport à la danse et ce lien qu'on entretient avec les danseurs est essentiel pour nous, car il rompt ce lien habituel qu'on a entre la scène et le public quand on fait un concert de musique classique.
Et oui.
Le public est passif, enfin il est actif intérieurement, mais je veux dire, il ne participe pas activement, il ne participe pas activement au moment de communion qui va être vécu. Or, lorsqu'on est dans un bal, les énergies sont autant importantes du côté de la scène que du côté des danseurs, et tout le monde participe à cette effervescence et à cette véritable communion, je n'ai pas peur du mot.
Oui, je vous pouvez, hein, il y a plusieurs musiciens qui ont déjà parlé de ça, de cette richesse du bal, parce que finalement on donne de l'énergie, on en reçoit, et c'est essentiel, et le jeu du musicien s'en trouve changé aussi. C'est ouais. en fonction de l'énergie que renvoie le public, c'est pas la même chose qui se passe sur scène. Hein. Alors que sur un concert, on peut, il y a ses avantages et ses inconvénients, on peut être plus détailliste, être un peu plus prévoyant. C'est un peu plus risqué, le bal, quoi.
Voilà.
Moi, j'aime bien, mais voilà, faut aimer.
Et s'il nous reste juste une minute, peut-être.
Il reste une minute.
Juste pour préciser que les préoccupations que nous avons et les questions que nous nous posons ne sont pas nouvelles et ont toujours existé, et que même déjà à l'époque de la musique baroque, déjà ils se posaient les questions de comment introduire le répertoire de danse dans un répertoire un petit peu plus intellectuel, et les deux s'influencent, et encore aujourd'hui les plus grands tubes de la musique classique sont en référence aux musiques populaires. C'est les danses hongroises de Brahms, c'est Carmen de Bizet, c'est le Boléro de Ravel. Donc vraiment, c'est les musiques.
La deuxième symphonie de Beethoven.
On veut les opposer pour mieux les définir, mais ça n'a pas vraiment de sens. Et encore une fois, que ce soit être très précis, être puriste, ou que ce soit être caricatural, ce sont des énergies différentes. Mais la réalité, bien que jamais comme ça, se nourrit de ces énergies-là, donc il ne faut pas opposer les choses pour les définir. Il faut plutôt les accueillir et se laisser guider par son plaisir, en fait, et par les rencontres qu'on fait, par les gens, les paysages, les parfums, et les belles énergies, les belles ondes.
Et bien, c'est sur ces sages paroles que nous finissons cet épisode. Merci beaucoup, Raphaël Maillet.
Merci à vous, Mathilde Lacaze.
Raphaël de Maillet de Montmartre. Et j'espère qu'on vous retrouvera bientôt sur nos ondes pour d'autres émissions.
Avec joie.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Musique Traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaze.